Nous allons continuer notre méditation sur l'espérance. Juste un petit mot, une petite carte de Jean, Marie et leur maman qui sont en train de rouler. Et ils voulaient vous dire que en ce jour, Marie, je vous envoie à tous et à toutes cette carte et ce message de la Vierge. J'ai été, faites tout ce qu'il vous dira. Faites-le. Voilà. J'ai été très heureuse de partager ces quelques jours avec vous. J'ai pu jouir de ce cadeau que donne le silence et apprécier chacun de vos gestes, de vos sourires, de vos cigarettes, de vos pulls, de vos stylos, de vos feuilles, de vos présences. Aujourd'hui, je ne vous quitte pas, je m'absente juste. Vous serez tous et chacun dans ma voiture pendant cette heure avec mes enfants, Jean et Marie. À bientôt dans ce monde ou dans le monde de la gloire. Hélène, voilà. Ben, oui, c'est sûr que... On aimerait tellement en rester tous ensemble, qu'est-ce que vous voulez. C'est comme ça. Nous allons donc essayer de nous préparer à ce grand moment de ce soir, où nous allons nous livrer vraiment tout entier, nous laisser prendre tout entier par Marie, de manière à ce que, bon... Voilà, on lâche toutes nos... On lâche prise, quoi. Voilà, toutes nos petits trucs qui sont à notre niveau, à nous. Et que on puisse enfin être un petit peu plus léger pour nous, pour notre prochain et pour Dieu. Il faut être vraiment très léger pour nous, très léger pour notre prochain, très léger pour Dieu. Manipulable à merci. Et ça, c'est la consécration à Marie qui fait que, bon, dans un esprit d'enfance, qui permet ça. Quoi. Et c'est peut-être ça la beauté de... C'est peut-être ça la beauté de la grâce que bon Dieu nous fait, c'est de trouver ce secret de l'abandon, quoi. Secret. À ce moment-là, il n'y a plus de rugissement en nous. C'est toutes ces entraves à la vie spirituelle où nos cornes poussent sur notre front parce qu'on rugit, on murmure, enfin tous les péchés qu'on avait vus contre l'espérance, quoi. On est lourd pour soi, pour le bon Dieu, pour notre prochain. On est étouffant pour nous, pour... Notre prochain, pour le bon Dieu. Alors, faut pas étouffer le bon Dieu. Non, faut... Le bon Dieu, c'est un souffle. Il faut pas étouffer le souffle très délicat de l'Esprit-Saint. Le souffle très délicat, très, 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 très délicat de l'oraison, de l'abandon. Et de la quiétude, de ce repos très épanouissant, très léger, très ardent, de ce qui se passe à l'intérieur de la très sainte Trinité, quoi, à l'intime. Et ça, il faut... Lorsque nous... Et puis, bon, comme les tout-petits qui sont dans la voiture, on va partir, c'est sûr. On va partir d'ici, mais il ne faut pas quitter quelque part. Ce qu'on reçoit ici, on reçoit ce souffle qui a commencé de souffler dans le très léger dans le cœur de Marthe, Robin et puis tous les saints depuis 2000 ans. Et ce souffle, il faut le garder, quoi. Il faut rester fidèle, voilà, à la grâce reçue. Mais c'est sûr que quand on va se retrouver avec les feux rouges, avec les... avec le foot, avec le... Avec tout ça, je ne vous conseille pas trop de parler de ce que nous avons vécu ici à vos proches. Hein. Et à ceux qui ne vous sont pas proches, je ne vous le conseille vraiment pas. Hein. Mais de toute façon, parce que de toute façon, même si vous ne leur en parlez pas, vous inquiétez pas, ils vont essayer de tout détruire. Eh bien, ils vont tout faire pour tout détruire. Et peut-être aussi les parties humaines qui sont en nous vont essayer de tout faire pour tout détruire, parce que notre plus grand ennemi, c'est nous. C'est la conception que nous avons de notre mission qui détruit tout. J'ai une certaine conception de ma mission en ce moment sur la Terre. Et je détruis tout en faisant ça. Et c'est terrible, terrible, terrible pour le cœur du bon Dieu. C'est pas nous qui nous donnons. C'est l'Esprit Saint qui est envoyé par le Père dans le cœur de son fils, de son enfant. C'est la seule mission. Tout le reste, on dit, mais il faut quand même incarner, il faut quand même concrétiser. Oui, sûrement, il faut faire son devoir d'État. Mais on sait que ça n'a aucune espèce d'importance, le devoir d'État. Et pourtant, on sait que c'est très important, le devoir d'État. Mais que ce n'est pas une mission invisible de l'Esprit Saint. C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin quand il dit que la vertu de religion, lorsqu'il y a sanctification de l'âme dans la mission invisible des personnes divines dans l'âme, devient un ennemi. De Dieu. Parce que la vertu de religion, c'est une qualité qui fait qu'on est en union avec Dieu et que du coup on a une force. Et du coup, on travaille pour Dieu, quoi, et en union avec Dieu. Mais enfin, on est cause seconde. Vous connaissez cette distinction, je pense, que fait saint Thomas d'Aquin et saint Augustin déjà avant lui, entre la cause première, la cause seconde et la cause instrumentale. Alors, ou bien on est cause première, alors à ce moment-là, c'est qu'on est en dehors de la grâce, totalement. C'est nous qui sommes la cause première. Et ça peut se faire au niveau des œuvres chrétiennes, ça. Quand c'est moi la cause première d'une œuvre chrétienne, ça devient mon truc. Il faut faire attention. C'est pas bon. Il faut être à la rigueur, cause seconde. Donc c'est pas moi qui travaille pour Dieu, c'est Dieu qui travaille, c'est la grâce, c'est la vie divine, c'est Dieu qui travaille à travers moi. On va dire, mais oui, juste précisément, c'est ça que je fais. Puis c'est pour ça d'ailleurs que c'est moi qui ai reçu cette grâce, donc c'est bien ça, c'est attention. Donc, cause seconde, c'est... Effectivement, c'est le Seigneur qui travaille en moi. C'est le Seigneur qui est envoyé dans mon âme. C'est ça qui est premier pour moi. Et du coup, les œuvres qui se font à l'extérieur se font, j'allais dire, sans même que je m'en rende compte, si je puis dire. Alors ça, c'est la grâce chrétienne, ça. C'est de vivre en état de grâce sanctifiante. on n'est qu'aux secondes. Vous voyez, par exemple, le fait de faire oraison, par exemple, on est en état de cause seconde. C'est Dieu qui travaille en moi, qui agit en moi. C'est l'Esprit Saint qui se répand dans mon âme, c'est dans mon corps et dans tout l'univers à travers moi. Mais ça ne se fait pas sans moi. Moi, je suis, je cours derrière l'Esprit Saint autant que je peux. Je suis une cause seconde. Tandis que dans un acte d'adoration, par exemple, je suis cause première. C'est moi qui me mets sous la dépendance de Dieu. Ça, c'est ce qu'il y a de positif. La seule chose positive dans la spiritualité de la cause première, c'est de faire un acte d'adoration. C'est la seule chose qui soit pure en cause première. C'est moi qui décide de mettre sous la dépendance totale de Dieu. Et du coup, Dieu m'attire. Il me prend en lui. Et il m'introduit à l'intérieur de lui. La cause seconde, c'est la grâce. C'est la grâce sanctifiante. C'est une distinction très, très, très importante hein, pour le discernement de nos actes, de nos œuvres, de l'opus Dei. Dans l'oraison, on est cause seconde, parce que l'Esprit Saint, c'est vrai, on a fait des actes d'adoration, on a été, du coup, Dieu nous a pris, nous a attirés, nous a introduits à l'intérieur de lui, nous avons trouvé du coup Jésus au fond de nous qui nous introduit à l'intérieur de lui, vous voyez, parce qu'on fait des actes de foi, Jésus nous a introduits à l'intérieur de lui, puis des actes d'espérance, parce que du coup, Jésus, dans sa lumière, dans sa divinité, et il nous donne la gloire éternelle, on en vit déjà, voilà, c'est l'espérance. Bah. Et puis, du coup, bah, quel bonheur il y a en Dieu, mon Dieu, quel bonheur il y a en Dieu, quel bonheur il y a en Dieu, et du coup, on a beaucoup d'amour pour nous, on est heureux d'être là. Voilà, ça c'est les actes de foi, d'adoration, d'espérance et d'amour que je fais pendant 3, 4, 5, 6 minutes au début de l'oraison. Je ne cesse de faire des actes comme ça jusqu'à ce que le bon Dieu m'ait vraiment introduit spirituellement, surnaturellement dans sa vie divine. Et donc, ça y est, la vie divine, c'est la grâce sanctifiante dans mon âme. Et la grâce sanctifiante dans mon âme va faire que l'Esprit Saint, ça y est, c'est lui qui souffle dans l'univers entier du Saint, du Fils, bien-aimé du Père, dans l'univers entier, la face du Père à travers mon corps. Et je le vois bien que c'est l'Esprit Saint qui est là. Et du coup, je cours derrière l'Esprit Saint pendant les 20 minutes d'oraison qui suivent. Parce que si l'Esprit Saint prend le relais, il faut que je sois bien élevé, je vais le laisser faire. Mais je cours derrière. Je suis cause seconde. C'est le but de l'oraison, de passer de la cause première à la cause seconde. Tous les jours, un exercice d'oraison surnaturelle. En union avec la plénitude de l'Immaculée Conception au fond de nous, la plénitude de disponibilité absolue de l'humanité pauvre du Papa, et à ce moment-là, à un moment donné, on devient cause instrumentale. Parce que Dieu va se servir de nous sans même qu'on s'en rende compte, pour sauver, pour rayonner. C'est c'est absolument évident, et je trouve ça très beau, moi, personnellement, ce qui s'est passé dans Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est vraiment la cause instrumentale par excellence. Hein. Ça, c'est évident. Regardez comment il s'est entièrement livré à Marie, entièrement livré à la grâce. Il était dans la tardema, comme dit le pape Jean-Paul II, cette espèce de torpeur. Et puis du coup, l'ange Gabriel apparaît à Marie, lui il n'est même pas là, et pourtant, il se sert de son corps, il se sert de lui. C'est fou, quoi. Il n'est même pas au courant. Il n'est même pas au courant. À tel point qu'on pourrait croire de l'extérieur qu'il a été mis de côté. Et il y a certaines personnes qui lisent l'évangile en disant « Ah, vous voyez, Saint-Joseph a cru qu'il était mis de côté. » Jamais Saint-Joseph n'a pensé qu'il avait été mis de côté. Et donc, on va répudier. Jamais. C'est marqué nulle part, ça. C'est l'interprétation de ceux qui ne savent pas ce que c'est que la vie spirituelle. Saint-Joseph savait très 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 bien, pour l'expérimenter, que c'est l'Esprit Saint qui agissait en lui, en Marie, et dans son unité avec elle, en lui aussi. Dans leur unité spontanée, il savait très bien, vous savez. Et à un moment donné, il sait très bien que pour l'expérimenter, vous savez, parce que nous, quand on expérimente cette très grande, extraordinaire plénitude de l'Immaculée Conception, vous pensez bien que Joseph, il l'a eu, cette grâce. Hein. Alors nous, on l'aurait, lui, il l'aurait pas eu. Alors, quelquefois, il y a des exégètes, carrément, on ne sait pas où est-ce qu'ils ont été au séminaire. Je ne sais pas. Mais... Nous, on l'a eu, lui, il l'a pas eu. Non, lui, ce dernier de... Très au-dessus de Saint-Joseph. Les égètes, c'est ça. Très, très au-dessus. Très, très au-dessus. Un point de vue grâce, de compréhension, de limpidité, de discernement. Joseph avait bon goût, quand même. C'est pour ça qu'il s'est marié avec Marie. Parce que souvent, ces égètes n'aiment pas tellement la Sainte Vierge. Hein. Ils ont mauvais goût. Hein. La Sainte Vierge avait bon goût aussi, remarqué, parce que il était beau, hein, Saint-Joseph. Ce que dit Perrolier, ce qui me console, d'ailleurs, quelquefois. Parce que je me dis, bon... Ce que dit Perrolier, il dit, si le Père, Dieu le Père, a été beau, c'est uniquement grâce à Saint-Joseph. Vous voyez bien ça? Dieu le Père, première personne de la Sainte Trinité. S'il est beau, c'est grâce. Pourquoi? Parce que la beauté, il faut être... Il n'y a pas de beauté sans forme. Or, Dieu n'a pas de forme. Et la seule forme substantielle, donc la substance de la beauté du Père, c'est Saint-Joseph. C'est l'incarnation de la substance de la beauté du Père. Et c'est parfaitement exact. Hein. Parce que le Père n'est pas beau, il est Dieu. Et la beauté ne pénètre pas en Dieu. C'est pour ça que quand Maritain dit que la beauté est un des attributs divins, eh bien, il est complètement dans l'erreur. Avec toute l'admiration que j'ai pour Maritain et pour Aïssa. Parce que la beauté, c'est la splendeur de la forme. C'est sûr. C'est ce qui reste. Il faut qu'il y ait quelque chose de limité quelque part pour qu'il y ait beauté. Hein? Parce qu'il faut que ça resplendisse, n'est-ce pas? La splendeur de la forme. Il faut faut lire Urson Balthazar sur la gloire, la beauté. Lui, à mon avis, il ne va pas jusqu'au bout. Mais c'est pas mal ce qu'il dit, mais il ne va pas jusqu'au bout. Maritain non plus. La beauté n'est pas un des attributs divins. Voilà. Et Saint Joseph, c'est vrai, sa beauté. Pourquoi ? Parce que le Père, première personne, se sert au ciel de lui comme instrument de sa présence. Manifestation, j'allais dire, directe de sa présence. Oui, parce qu'on sera devant la face du Père dans la Lumen Gloriae, la vision béatifique. Mais notre corps, tous les atomes de notre corps glorifié, nos regards, notre sensibilité, notre concupiscible, notre estomac, notre rate, nos intestins, nos entrailles, nos poumons, notre affectivité, notre capacité d'extase, notre vie contemplative humaine, etc., entièrement pris par le feu de la gloire de Dieu, tressaillera complètement devant la beauté de cette contemplation du Père. Et ça, c'est le visage de Joseph. Qui fait le passage continuel dans l'unité entre la vision du Père ad intra et la gloire et le bonheur ad extra dont on nous a parlé. Les deux sont pas séparés, c'est fait en un, et ça c'est à cause de la beauté substantielle de Joseph dans la gloire. C'est pour ça qu'on méditait dans ce troisième mystère de l'avènement glorieux, c'est que la face du Père se diffuse dans les vertus des dans ses vertus, quoi. De la face du Père, de la beauté du Père. C'est très très beau. Eh bien, Saint Joseph est purement instrument. Vous voyez, quand il se retrouve avec Marie, qui est enceinte, alors il se pose la question, c'est vrai. Il se pose la question. Il sait très 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 bien que c'est Dieu qui a pris toute la place en Marie, que c'est Dieu le Père qui a pris toute la place en Marie en se servant de lui dans l'unité spontanée. Mais il se demande si maintenant il ne doit pas s'effacer lui-même à son tour pour que Dieu le Père prenne toute sa place. Et il se demande s'il ne doit pas mourir. Et on lui dit non, pas maintenant. Tu dois, effectivement, il avait bien compris la volonté du Père, qu'il faut s'efface, que Marie reste seule avec Jésus. Non, tu dois faire croître en sagesse et donner le nom de Jésus et recevoir Marie chez toi pour mourir en vivant de la croix glorieuse. Et être le premier à vivre le mystère de la rédemption, quoi. Alors, il l'a très bien compris. D'ailleurs, l'ange Gabriel lui dit, c'est pas maintenant, tu as raison, il a très bien compris. Il est purement instrument, c'est ça qui était étonnant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas là, au pied de la croix, en tant que cause seconde. Marie est là, au pied de la croix, en tant que cause seconde. Elle vit de la mission invisible du Verbe et de l'Esprit Saint dans son âme, qui l'emporte dans la vision. Elle est cause seconde, tandis que Joseph, lui, est cause instrumentale au pied de la croix. C'est très, 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 très grand, ça, d'être cause instrumentale. Quand Jésus est mort sur la croix, jusqu'à sa mort, il était cause principale, comme Dieu, et cause seconde, comme Christ. Son humanité sainte était cause seconde. C'est sûr, c'est la volonté de Dieu d'abord, et puis la volonté du Christ ensuite qui suivait la volonté de Dieu. Il était qu'au second. Et tout ce qu'il a souffert, mon Dieu, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font, toutes ces paroles, j'ai soif, il était qu'au second. Vous comprenez ça? C'est facile à comprendre. Puis il meurt. La sainteté de son âme rejoint Saint Joseph, son papa, et Dieu le Père à travers Saint Joseph. Pendant 36 heures. Et pendant ce temps, son corps mort sur la croix devient instrument. Devient cause instrumentale. Et saint Augustin dit, c'est le corps mort de Jésus qui est cause instrumentale. La plaie du cœur, cause instrumentale. Jésus fait rien. C'est, vous voyez, c'est du coup la très sainte Trinité elle-même qui est agissante dans le cœur de Jésus directement, sans la médiation de Jésus. C'est incroyable. Et si on ne fait pas ça, si on n'est pas décidé dès maintenant à faire ça, c'est qu'on ne sera pas compté parmi ceux qui ont été choisis pour rester fidèles à l'Église de la fin des temps. Ça, c'est absolument clair, ça. Et c'est pour ça que vous le demandez, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire, hein. Là aussi, c'est ce que... Non, mais il faut faire attention, on dit ça, le Père Patrick, il a dit ça, mais non, doucement. C'est pas parce que faut accepter que ce soit ça le principal pour nous. C'est pas dire que le reste faut du coup s'arrêter, hein. Bon. Parce que quand vous mangez, vous êtes cause première, donc on s'arrête de manger alors. N'est-ce pas? Et quand vous faites oraison, vous êtes cause seconde. Alors donc arrêtez de faire oraison, j'ai pas dit ça. Il faut manger, il faut faire son devoir d'État, d'accord, et il faut adorer, cause première. Faire des actes de foi, d'espérance et d'amour. Deuxièmement, il faut être cause seconde, il faut que l'oraison fasse que ce soit la totale transformation et que c'est l'émission divine à l'intérieur de notre âme qui élargisse notre âme aux horizons de ce qui dépasse tous les lieux et tous les temps. Comme un rayon laser qui traverse tous les lieux et tous les temps. Il faut exploser toutes les limites de tous les lieux et de tous les temps. Et là, c'est l'Esprit Saint qui souffle. Et il faut faire oraison, c'est sûr. Je n'ai pas dit qu'il fallait arrêter de faire oraison. J'ai dit que le centre de gravité de ce que nous décidons de vivre, c'est d'être cause instrumentale. C'est d'être réduit à l'état de rien du tout, si je puis dire, et de vivre surnaturellement, si Dieu nous en fait la grâce. C'est pas vous qui allez vous le donner, hein, ça vous pouvez pas vous le donner à vous-même. Sinon vous serez à nouveau cause première. Donc, mais il faut le désirer. Que ce soit notre centre de gravité, oui, que dans les plus grandes pauvretés, là où on est anéanti, c'est-à-dire où on est exactement comme Jésus mort, exactement comme les enfants avortés, si vous voulez, ils sont morts, ils ne peuvent plus rien faire. Eux, ils sont cause instrumentale. Si on prie pour eux, si on prie pour eux, on leur obtient pour eux des grâces, ou ils sont cause instrumentale. C'est pour ça que, à mon avis, ça, je m'excuse, c'est mon avis. C'est uniquement mon avis maintenant, la phrase que je veux dire. À mon avis, les apôtres des derniers temps, ce sont ces enfants avortés-là. C'est eux les apôtres des derniers temps. Et nous, si nous sommes comme eux, si nous revenons à cet état à la fois de très grande liberté et d'impuissance totale que nous dans lequel nous étions dans la première cellule, n'est-ce pas, l'innocence divine, et à la fois l'état dans lequel eux ils sont, parce qu'ils n'ont plus leur corps, donc ils ne peuvent plus rien faire, ils n'ont plus aucune possibilité d'intelliger, de comprendre, la souffrance est incompréhensible, ni d'aimer, il est impossible pour eux de se mettre en relation. Il ne leur reste plus que la memoria dei, désir total, immense, que Dieu prenne tout en eux, par le retour de Jésus. C'est le retour du Christ seul qu'il fera. Alors il y a ce désir immense. Si on prie pour eux, ah, au moins, ils savent à qui ils aspirent. Ils aspirent au retour du Christ. Cet état où on est... On ne peut plus rien. Je crois que c'est assez facile. Moi, je m'excuse, c'est pas de la haute mystique, ça. C'est assez facile. Si on a un minimum de compassion, un minimum de miséricorde, un minimum d'unité avec un petit enfant, quand même, c'est émouvant, un enfant, non ? Qui est assassiné, qui meurt, cri silencieux. Qu'est-ce qui se passe après sa mort tout de suite, les secondes d'après? Ah. Plus rien. Plus rien. Et c'est cela que Dieu a choisi pour renouveler l'Église tout entière. Ce sont un petit peu les saints Jean-Baptiste, des apôtres des derniers temps, si je puis dire. C'est eux qui nous forment, saint Jean-Baptiste formait les futurs apôtres des derniers temps. Et nous sommes à leur école. Nous sommes à l'école de Saint Jean-Baptiste, de Élie, qui effectivement, et ils nous forment, leur manière de vivre, cette soif, ils sont dans une pauvreté substantielle. Hein. On ne peut pas dire, hein. c'est pas un petit accident qu'ils ont eu. Hein. Ils sont dans une pauvreté substantielle. C'est cet état d'innocence. Ben pourtant, en même temps, mémoire de Dieu, limpide, vous connaissez. Je voulais raconter l'histoire du petit David, là, qui se met sur le berceau de sa petite cousine. C'était le premier jour, je crois. Premier jour, je ne vous ai pas raconté ça? Oui. Ce petit David qui a 3 ans, il a 3 ans, il apprend que sa petite cousine vient de naître. Alors, sa maman... Si je vous ai raconté ça le premier jour? Oui, oui, oui. Si vous l'avez entendu, c'est que tout le monde l'a entendu. Si, ici, oui, oui. Si, si, c'est la première fois que je la vois. On va voir le petit bébé. Bon, bah, il insiste, à 3 ans, il insiste. Hein. Il insiste. Quand même, je vous l'ai raconté. Il insiste. Bon, je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont sourds. Et il insiste. Normalement, un enfant n'insiste pas. Un jour, 2 jours, 3 jours. Il fait un caprice et puis c'est fini. Ben, on n'y va pas, puis tout. Il insiste. Alors, au bout de 3-4 jours, la maman l'amène. C'est ma sœur qui a fait ce témoignage dans Feu et Lumière, tu sais, puisque c'est elle qui dit Feu et Lumière. Et il va voir la maman. Et puis la maman, bon, elle va voir sa sœur, qui vient d'accoucher il y a un mois. Bon, et petit bébé dans le berceau, sa petite cousine. Alors, un petit garçon comme petit Jean, là, mais Jean est plus âgé quand même, il a 5 ans. Le petit garçon, David, avait 3 ans. Et il se met au berceau, et les deux sœurs, les deux mamans, bon, se mettent un petit peu à l'écart, mais quand même, cherchant la petite souris qui va voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il était tellement... Et petit David disait à la petite cousine... Vite, dis-moi comment est Dieu, je commence déjà à oublier. Pourquoi ? Parce que Effectivement, les plus grands moments d'expérience de Dieu sont dans la période embryonnaire. Ce que l'Évangile nous dit d'ailleurs. Saint Jean-Baptiste, dans le sein maternel. Saint Joseph a été sanctifié dans le sein maternel. Jérémie a été sanctifié dans le sein maternel. Les plus grands moments, et c'est vrai, et l'innocence divine, quand on est créé par Dieu, Saint Augustin, Memoria Dei, dans le sein maternel. Mais ça reste, et puis petit à petit. Dès que les voix humaines commencent à se mélanger à tout ça, on finit par oublier cette présence de Dieu directe, visible, lumineuse, face à face, presque libre. Oui, il faut le savoir que... Donc, retrouver cet état d'enfance dans l'horizon et l'union transformante cause seconde, retrouver l'état d'enfance absolu, c'est la cause instrumentale. Et le corps qui a été animé de l'intérieur par la diffusion de l'âme spirituelle, comme dit le Saint-Père, 24 février dernier, quel est génome ? Être un premier, vivifié par l'âme spirituelle qui vivifie et imprègne ce jeune homme. Le jeune homme, c'est la première cellule. Vivification, imprégnation de la lumière, de la présence créatrice de Dieu dans le jeune homme. C'est extraordinaire. Et bien, ce génome, avant, il a été préparé par les parents. Il se prépare dans l'unité sponsale, dans cette tension entre les gamètes, puis pénétration des deux gamètes l'une dans l'autre, et puis création de la première cellule, distribution du patrimoine génétique. Et une fois que ce corps-là, préparé par les parents, est là, il est à l'état pur de corps. Dieu se sert de ça comme instrument pour y mettre sa présence créatrice et donner l'âme spirituelle. Pour retrouver cet état antérieur où l'instant immédiat, un milliardième de seconde avant que Dieu me crée, il faut retrouver dans mon corps cet état d'être. Alors, je suis, mais je ne vis pas. Dire je suis dans mon corps, et je ne vis rien. C'est ça, être cause instrumentale. Oh, le Seigneur m'a abandonné, je ne vis plus rien. Mais c'est super, ça. Oh, le Seigneur m'a complètement abandonné, je ne vis plus rien, j'ai plus de grâce. Mais attends, attends, je m'excuse, mais c'est ça. Tu y es, tu touches le but. L'extrême disponibilité corporelle du corps. Je suis dans mon corps, mais je ne vis pas. Je ne vis rien. C'est formidable, ça. C'est ça. Et tous les papiers que vous avez reçus de Marthe, un petit papier vert, d'ailleurs, on salue... Mademoiselle Bernard, parce que c'est elle qui a tout écrit, on avait mal au cou et tout ça. Eh bien, tous nous indiquent ça. Il faut être réduit à l'état de pauvreté, alors à ce moment-là, total, absolu, du point de vue de la vie. Alors à ce moment-là, du point de vue de l'existence, mon existence devient corporellement vivifiante. Je suis cause instrumentale. Vous voyez la différence ? C'est formidable, ça. Quand Jésus est mort, il n'y a plus la vie humaine en lui, mais son corps est. Et le Verbe de Dieu se donne à nous à travers ça. Dieu se donne, le Verbe se donne à travers le corps, qui ne vit plus. Il ne vit plus rien dans son corps. Et c'est à ce moment-là que le corps est vivant de l'éternité, du Verbe de Dieu. Et de la volonté, il n'est pas animé par la volonté humaine du Christ. Le cœur humain du Christ ne vit plus rien dans le corps mort de Jésus sur la croix. Il n'y a plus que la volonté du Fils, la volonté divine du Fils qui vit dans le cœur de Jésus, mort sur la croix. Et c'est tout le texte que nous avons lu tout à l'heure, de la petite sympathique là, que nous avons lu tout à l'heure. C'est la volonté divine du Fils, c'est plus la volonté du Christ. Alors ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et si je veux autre chose, c'est ma volonté. Alors ça, c'est terminé. Si il n'y aura pas le choix, quoi. Ceux qui ne sont pas prêts dès maintenant, eh ben très bien. Qui continuent leurs œuvres. Pour Dieu, très bien. Ils sont libres. Et bon Dieu les aime. Et moi aussi. Mais ils ne rentreront pas dans la septième colonne de l'Église. Je crois que c'est assez facile à comprendre. Il n'y a rien de bien nouveau dans ce que je vous dis. Et c'est à cause de ça que les pères spirituels ont toujours dit que si on se consacre à Marie, on devient instrument. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que quand on est dans un état de, par exemple, Saint Jean de la Croix, lisez Saint Jean de la Croix, vous verrez, l'état de nudité absolue, absolue, absolue. D'un mariage final de toute l'âme incarnée dans le corps ressuscité du Christ. Dans le cantique spirituel, c'est formidable ça. Et Sainte Thérèse d'Avila, le mariage spirituel, la deuxième caractéristique du mariage spirituel, c'est une soif insatiable de souffrir. Parce que quand j'ai expérimenté qu'au terme de cette soif insatiable de souffrir, la souffrance allant jusqu'au bout, eh bien, il n'y a plus rien de vivant en moi, c'est à ce moment-là que les choses les plus étonnantes, cette intimité, j'allais dire presque, non pas sentie, mais cette intimité fusionnelle avec la grâce de Joseph, elle est là. Et Sainte Thérèse d'Avila, elle voulait absolument vivre de ça. Il ne faut pas dire qu'elle n'en éprouve rien. On éprouve quelque chose, hein, attention. Mais on ne sent rien. J'espère que vous retenez bien cette formule. Hein. On éprouve quelque chose, mais on ne vit rien. On ne sent rien. On est mort à tout ce qui est de la terre, et à ce moment-là, la terre vit. Et c'est Dieu qui vit dans la terre. C'est l'humilité poussée jusqu'au bout, quoi. C'est une note qui est le centre de gravité de tous les docteurs mystiques, hein, notamment les principaux du Carmel. Être dans cette l'aridité absolue. C'est pour ça que tous les spirituels, vous avez entendu mille fois dire, les spirituels dire, mais quand vous êtes dans un état d'aridité, mais c'est pas mauvais du tout. C'est excellent. Quand vous êtes dans un état de nuit, que vous ne comprenez pas, dites enfin Seigneur, je suis dans un état où je ne comprends pas, où je ne suis pas rempli de chaleur. Là. Aucune intuition, aucune vision, aucune consolation. Et tous vos pères spirituels vous ont toujours dit, oui, mais enfin, c'est pas ça. Hein. C'est bien, très bien, remerciez le bon Dieu, hein, vous avez une sucette, hein, mais c'est... un bon chewing-gum, bon, ça va, mâchez-le bien, puis crachez-le. Et puis enfin, quand il sera craché, on pourra commencer quelque chose de sérieux. C'est Dieu qui compte. C'est Dieu qui compte. Et quand on est dans un état de pauvreté, et qu'on dit au Seigneur, vraiment merci, profondément merci Seigneur, pour cet état de pauvreté dans lequel je suis. Ah, profondément merci, enfin j'y suis. Oh, comme je suis content. Oh, comme je suis content d'être dans cet état où enfin, à travers ça, je peux m'offrir. Je peux m'offrir. Je peux enfin m'offrir jusqu'à la racine de ma vie, puisque je ne vis plus rien. Et j'existe dans un état de pauvreté totale. Et du coup, je peux m'offrir. Enfin, je peux faire une offrande qui touche à la racine de l'âme, du corps et de l'esprit. C'est toute mon existence que je peux offrir. Je ne peux offrir mon existence que quand je touche cette racine profonde qui est l'état d'état d'origine, quoi. Ce qui est avant mon origine, si je puis dire, ou ce qui est après ma mort, ce qui revient au même. Après ma mort, comment est-ce que mon corps sera? Avant que Dieu crée ma première cellule, comment j'étais? Le millionième de seconde avant ma conception, le millionième de seconde après ma mort, je suis dans quel état? Je rejoins les deux, et vous avez l'état dans lequel le bon Dieu aime que je sois, si je veux qu'il se serve de moi comme d'un instrument pour la rédemption et pour le règne du Sacré-Cœur. C'est pour ça que Saint Louis-Marie Grignion de Montfort demande qu'on se consacre totalement à Marie, qu'on lui donne tout. Toutes nos intentions, toutes nos œuvres, toutes nos... Qu'on s'en occupe. Si on nous le demande. Qu'on s'en occupe si on nous le demande. Si l'Église nous le demande. Alors, par obéissance, on le fera. Cause seconde. Par obéissance. Par exemple, on me disait, ah oui, c'est très important, bon, moi je fais les oraisons de Sainte-Brigitte, vous comprenez, et je ne suis pas contre, hein. Je ne suis pas contre. Je suis contre rien, de toute façon. C'est mon principe, moi. Je suis contre rien. C'est peut-être là mon tort. Je suis pour Dieu, c'est tout. Enfin bref, fais les oraisons de Sainte-Brigitte, c'est formidable. Tous les jours, 15 âmes de sa famille qui sont sauvées. C'est formidable ça. 5 du purgatoire, d'ailleurs du purgatoire, ce jour-là, tous les jours des oraisons de Sainte-Brigitte. C'est fou quoi. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien ce truc-là. Et si je fais une indulgence plénière, que je la fais pour une âme du purgatoire, ah, pour ma cousine Germaine qui est morte il y a 3 ans, je fais une indulgence plénière, je donne à mon âme. Formidable ça. Voilà, c'est vrai. Je délivre ma cousine qui est morte il y a 3 ans grâce à cette indulgence plénière que je lui obtiens. N'est-ce pas? C'est formidable. C'est pas mauvais. Eh bien, ce n'est pas Marie et la fin des temps juste comme ça. Quoique, on peut le faire. On peut le faire. Non, non. Dans la consécration à Marie, j'offre tout. Et tous les mérites que j'ai, et c'est elle qui décide à qui elle les donnera. Donc toute la tambouille, toute la cuisine, toute la ratatouille est terminée. Ah, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Si c'est ça, je ne dirais pas les autres 78. Ah ben non, alors là, c'est la meilleure. Alors du coup, voilà, si ce n'est pas toi qui décides, alors... À qui ça? Alors voilà, donc c'est fini, tu fais plus. Ça c'est incroyable quoi, ça se montre bien que c'est égoïste. Tandis que là il faut tout donner, continuer à travailler, continuer à obéir, continuer bien sûr. Et on offre toutes ces prières, tous ces mérites. C'est formidable ça. Voyez, parce que quand vous êtes un saint sur la terre, on acquiert des mérites. Quand on devient un saint, vous devenez comme Saint François d'Assise, et vous faites des œuvres héroïques. Vous acquérez des mérites à chaque fois que la grâce augmente dans votre âme, Vous empochez des mérites pour l'éternité. Ça veut dire qu'au ciel, c'est décidé, vous aurez la gloire correspondant à cette augmentation de la grâce. Eh bien, dans la consécration à Marie, je donne aussi mes mérites. C'est-à-dire, je suis d'accord de ne pas avoir la gloire correspondante dans la gloire de Dieu éternellement. Et effectivement, on ne me donnera pas la gloire correspondante dans l'éternité, éternellement. On me donnera une autre grâce, celle que Dieu voudra. Et je peux vous affirmer qu'on ne recevra pas la grâce qu'on a méritée, parce qu'on l'a donnée, donc on ne l'aura plus. On l'a donnée à Marie, on recevra une autre grâce. On donne tout à Marie, voilà. Alors ils sont arrivés à midi, c'est pas ? Ils sont arrivés à midi, le secret de Marie. Pardon ? Oui, le secret de Marie, de Saint-Louis, Marie Grignon de Montfort. Et ça c'est la statue de Châteauneuf de Galaure qui a été... Donc vous... Vous voyez, je suis arrivé à cette conférence avec rien dans les mains, rien dans les poches. Mais enfin, quand même. J'ai rien dans les mains, rien dans les poches. Je n'ai que cette consécration à Marie. Ouais, c'est un trésor, ça. Hein, c'est vraiment, c'est un trésor. Voilà, faut être fidèle à ça. Et si on vous empêche de faire des trucs, empêche de prier, aucune espèce d'importance, vous vivez de ça. Tout ce qui va vous arriver va contribuer à ce que vous puissiez être fidèle à ça. Vous ne pourrez plus faire certaines choses que vous faisiez avant, prier comme vous faisiez avant, être libre d'aller à la messe comme vous voulez avant, ou je sais pas quoi. Très bien, excellent. Génial. Persécution à mort. Excellent, excellent. Vous êtes réduit à l'état d'instrument, vous devez obéir de toute façon. Et du coup, enfin, vous allez pouvoir vivre la consécration à Marie, quoi. Hein? Et de ce que ça implique, et vous verrez que c'est délicieux. Vous savez, Saint-Joseph n'était pas malheureux du tout, hein, d'être cause instrumentale. Moi, j'aurais bien voulu être à sa place, je vais vous dire. C'était vraiment très agréable. Hein. C'est pas désagréable d'être crucifié. C'est délicieux. C'est pour ça que, quand on le vit, en étant fidèle à l'horizon, et pourtant en étant entièrement livré comme cause instrumentale, et que ce soit Joseph qui vive à travers nous, Joseph glorifié, le Père. Dans mon corps. Retenez cette formule parce que le Père. Dans mon corps, dans la cellule de mon corps, dans chaque cellule de mon corps, le Père, comme dit saint Thomas d'Aquin, n'est jamais envoyé. Le Père n'est jamais envoyé. Il est dans le corps de l'homme. Et il envoie son Fils dans notre âme. Et il envoie l'Esprit Saint dans les puissances amoureuses de l'homme et dans le monde entier à travers son cœur. Il y a deux personnes qui sont envoyées. Et c'est le Père qui envoie son Fils. Il faut lire, si vous avez l'occasion, de faire un peu de catéchisme pour adultes, le traité de saint Thomas d'Aquin sur les missions invisibles des personnes divines dans notre âme. C'est un traité admirable. Saint Thomas d'Aquin a fait la somme de Saint Thomas pour les débutants. Donc, c'est à votre niveau, puisque même vous êtes plus débutant, vous êtes déjà très très loin. Donc, la somme de Saint Thomas d'Aquin, c'est pour les débutants. Et l'Église dit docteur commun principal de l'Église. Donc, c'est principal nourriture de la doctrine apostolique de l'Église. Traité des missions invisibles. Eh bien, c'est dans ce traité des missions invisibles dans notre âme, je pourrais dire dans l'Évangile d'abord, j'aurais pu vous prendre l'Évangile, hein. Le Père n'est jamais envoyé. Il est là. Il envoie son Fils. Chapitre 17 de Saint Jean. Il enverra l'Esprit Saint. Le Père et moi ne s'en verrons. Quand le Fils, par la grâce, vient mourir dans notre mort totale, qu'on ne vit plus rien, il envoie l'Esprit Saint. Quand le Fils, le Christ, vient mourir et nous vivons morts, il n'y a plus rien dans notre corps originel, quoi, où il a rejoint le Père en nous, dans cette espèce de silence du corps mort, enfin, du corps originel, du corps disposition totale, absolue, instrumentale, innocence divine, quoi, crucifié, il s'écrit. Alors à ce moment-là, les deux sont ensemble et on envoie l'Esprit Saint dans notre âme. Mission invisible de l'Esprit Saint. Le corps joue un rôle capital. L'Eucharistie nous montre d'ailleurs ceci. Est mon corps. C'est pas la vie, c'est l'être. C'est est. C'est corps. Et c'est est. C'est pas gratia et vita. C'est corpus et puis est. Tous les sacrements d'ailleurs. La religion chrétienne, c'est la religion du corps. La religion de l'Antichrist, c'est la religion de l'épanouissement vital. Des énergies, des présences vivifiantes et rayonnantes de Dieu dans le monde. Et de la splendeur de la forme. Vous lirez, hein, ce que c'est que l'Antichrist. 80 pages sur la doctrine de l'Église sur l'Antichrist. Mais il n'y a pas que là, hein. On s'en occupe. Hein. Cause instrumentale, taisez-vous, on s'en occupe. Je crois que c'est très important, ça, de comprendre ce que c'est que cette consécration à Marie, parce que à la lumière de Marthe et à la lumière de Jésus crucifié, à la lumière du mystère du tombeau. Après la mort, Jésus a le cœur ouvert, il est déposé dans le tombeau et la résurrection va jaillir à partir de cet état. Seulement, il y a Marie. Seulement, il y a Marie. Jésus est mis dans le tombeau de Joseph. Bizarre ça. Jésus est venu poser dans le tombeau de Joseph qui avait été sculpté dans la pierre pour Joseph. L'évangile qui dit ça. De Joseph, carrément. Allez-y. Vous l'aviez repéré, j'espère, ça. Non, qui n'avait pas repéré ça? Non, ça m'intéresse. Qui n'avait pas repéré dans l'évangile que c'était le tombeau de... Hein? Ah, il y en a deux qui n'avaient pas repéré. Oui, mais Joseph d'Arimathie, oui. Ah ben quand même, bien sûr que vous n'avez pas fait la relation. Hein. Pas faire la relation, c'est pas bien. Il faut chercher quand même Joseph dans les... Il faut chercher papa dans les Écritures quand même. Hein. Où est-ce qu'il se cache papa? Il a toujours été instrument, donc il s'est caché. Il s'est jamais montré de lui-même en disant c'est moi, hein, c'est mon truc. Hein. Joseph, il était mort depuis 3 ans dans les limbes. Hein, d'accord? Mais donc il y avait un tombeau de Joseph qui était sculpté, Joseph d'Arimathie, quoi, hein, qui offre son tombeau. Il s'appelait Joseph, le tombeau de Joseph, c'est marqué. Et on dépose Jésus dedans. N'est-ce pas? Bon, alors, on dépose Jésus, le corps de Jésus, ouvert par la lance, dans les bras de Marie. Donc vraiment Marie, enfin Jésus anéanti avec les dernières gouttes d'eau, de sang et l'Esprit Saint qui sort de son cœur, donc toutes les grâces, tous les sacrements, toute sa vie sur la terre et son corps anéanti et déposé à Marie. Voilà notre consécration à Marie. Déposé dans le corps de Joseph, parce que la grotte minérale sculptée, creusée dans le roc de Joseph, ça représente quoi? Ça représente la mort de Joseph, évidemment. Il est déposé dans la mort vivante de Joseph, si je puis dire, mais il vit de Marie. Marie est là. Il n'y a plus que Marie qui vit. C'est pour ça que le fruit de ce mystère, c'est la confiance en Marie dans les temps de la fin. Il n'y a plus que Marie qui vit sur notre terre. Notre terre, c'est notre corps. Donc Jésus, la sainteté de Jésus ne vit plus, la sainteté de Joseph ne vit plus, il est mort. Mais on a déposé Jésus en Joseph, du point de vue du corps, et du point de vue de la vie, c'est uniquement Marie qui vit. Voilà ce que c'est que la consécration. Ça me paraît d'une évidence tellement aveuglante que j'ai honte d'en parler. Et en même temps, on pense, en faisant ça, à donner la présence vivante et sainte de Jésus à ceux qui sont dans les limbes. Parce que Joseph est leur papa. C'est ce que Jésus faisait pendant ce temps-là. Il était dans les limbes. Pour ceux qui étaient encore pris par péché originel, ils sont dans les limbes, ils ne sont pas baptisés. Vous voyez comme les deux sont liés? Mystère de la croix glorieuse, mystère du cœur de Jésus et le règne du Sacré-Cœur. Si on vit de cette manière-là, ça c'est la spiritualité johannique, c'est la spiritualité mariale, c'est la spiritualité du Christ, c'est la spiritualité de l'Église d'après l'Écriture, ça. Bon, maintenant comment est-ce qu'on fait? C'est le schème. Le schème, c'est ça. Voilà. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait? Bon, ben, je pense que nous avons compris, quoi, maintenant. Qu'on fait un acte d'espérance. Chrétienne. Dans cet état-là, qui permettra et qui obtiendra la résurrection du corps mystique de l'Église tout entière. C'est-à-dire le règne du Sacré-Cœur, le triomphe du cœur immaculé de Marie, enfin tous les mystères que nous méditons depuis 3 jours dans les 15 mystères joyeux, royaux et glorieux de l'Église, du corps mystique total de l'Église, renouvelé dans cet état de pauvreté auquel l'Antichrist contribuera pour notre plus grand bonheur, à ce que ce soit encore plus facile pour nous, parce qu'il contribuera à ce qu'on soit vraiment encore plus pauvre, pour notre plus grand bonheur et à son grand âme, qui est le cas de le dire au sens propre du mot. Parce que grâce à lui, on sera vraiment dans un état où on sera obligé de ne pas être marqué par le chiffre de la bête, et qu'on ne pourra pas Parce que vous savez, l'Antichrist, d'après ce que l'Écriture nous dit, les saints, les apôtres et les saints reconnus par l'Église, eh bien, on sait que l'Antichrist sera merveilleux. Une splendeur de lumière. Puisque le plus grand nombre des chrétiens vivant des sacrements et d'états de grâce penseront que c'est lui qui a raison. C'est l'Apocalypse qui dit. Ils seront, la plupart de ceux qui sont en état de grâce, qui vivent des sacrements, penseront que c'est lui qui a raison. Ils le suivront. Parce que il y a pas mal de gens qui sont chrétiens, qui vivent des sacrements, qui sont en état de grâce, qui pensent que la vie chrétienne, oh, Seigneur, c'est formidable ce que je vis, c'est quel bonheur, je vis. C'est pas vivre. C'est pas la vie, c'est l'adoration qui compte. C'est l'être. Et la vie, ma vie ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Il y a plein de chrétiens. Et le Christ cosmique, vous voyez, ce sera le Christ. Alors, il vivra tellement du Christ, du point de vue de... Il ressuscitera même des morts. Vous vous rendez compte? Et ce sera... Il fera l'unité entre les hommes. Plus de guerre grâce à lui. La paix. Guérison. Il aura une puissance vraiment très très grande. Illumination. Tout le monde va comprendre enfin le Christ grâce à lui. Le nombre de conversions au Christ grâce à lui, ça va être dingue. Conversion, entre guillemets, ce ne sera pas... La vraie conversion, c'est ceux qui acceptent la croix et de mourir à leurs œuvres. Pour qu'il n'y ait que Dieu qui se serve de leur mort sur la terre pour être des morts vivants et des vivants morts, c'est-à-dire des êtres du Sacré-Cœur de Jésus. Regardez par exemple Marie. Pourquoi est-ce qu'on s'en consacre à Marie? Comme dit Saint Louis, Marie, craignant de mon port. Marie avait la plénitude de sainteté. Plénitude de grâce. Elle aurait pu, de son vivant, ressusciter des morts. Parce que si un clampin comme Saint-Vincent Ferrier ressuscitait quand il voulait des morts, 28 fois, le pape a fait une enquête sur Saint-Vincent Ferrier pour la canonisation. Il a envoyé deux enquêteurs. Ils sont partis pendant 15 jours. En 15 jours, ils ont récupéré 28. Résurrection en présence de peuple. Ils ont arrêté parce qu'il y en avait trop. Alors c'est un clampin, pardon Saint-Vincent, vraiment je suis désolé. Ressusciter les morts comme qui rigole. Saint-Dominique, il a ressuscité des dizaines de morts pour montrer aux cathares qu'ils n'étaient pas dans la vérité. C'est des étoiles de la sainteté, ça. C'est pas le soleil que demande le bon Dieu pour les derniers temps. Et qui éclipse toutes les étoiles de la sainteté. Et si l'étoile veut continuer encore à briller, alors qu'elle tend du soleil, eh bien c'est un imbécile. Ça prouve que c'est un orgueilleux. Attention. 12 ou 13. Discerne, donc c'est... Qu'il le discerne, c'est très rare hein, que Saint Jean donne un ordre. Qu'il discerne. Ah, si tu fais oraison, si tu acceptes d'être cause instrumentale, tu lâches toutes tes œuvres. Si on te la demande, tu en fais encore. Si on te le demande, positivement, tu fais encore. Tu lâches toutes tes œuvres, tu vis cette pauvreté pour qu'il n'y ait plus que le bon Dieu. Si malheureusement on te demande de faire une mission, bon, bah, tant pis, tu vas la faire. Vite cet esprit d'enfant, c'est-à-dire cet état dans lequel sont les enfants dans l'innocence crucifiée et ce cri silencieux, quand est-ce que Jésus va revenir, comme Marc. Esprit d'enfance, cœur pur, il verra en Dieu. et discerne. Esprit de science, il faut que tu saches, grâce à l'esprit de science, troisième don du Saint-Esprit, reconnaître ce que signifie, quelle est la signification sponsale du corps de l'Antichrist, et qui est symbolisé par 6, 6, 6. Tu dois le faire. Et c'est l'Église qui peut le faire. Donc nous. C'est ce que nous verrons en dernier lieu. On va souffler un peu...